Excusez s'il vous plaît l'accent et oubliez Let It Be, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band ou encore Yellow Submarine, l'album ultime des Beatles n'a pas de nom, il est tout blanc et il est génial. Vous ne me croyez pas? Tendez donc l'oreille.
Carte d'identité. Nom,
The Beatles.
Lieu de naissance,
Londres, avec des petits morceaux d'Inde dedans.
Date de naissance,
22 novembre 1968.
Signe caractéristique.
Un disque qu'on ne sait pas comment appeler, car mis à part le mot Beatles, écrit en relief, ce double vinyle ne porte aucune mention sur sa pochette toute blanche. C'est avec le son de ce long courrier de la BOA et un titre étrange, Back in USSR, que débute ce curieux objet sonique. Il se nomme The White Album et signe en fait la fin des Beatles. Pour bien comprendre le contexte de sa douloureuse naissance, il nous faut remonter en 1966. George Harrison, 4 ans avant qu'il ne signe le fantastique morceau My Sweet Lord, est tombé sous le charme de l'Inde. Ses bâtonnets dansants, ses divinités aux multiples membres, pour rappel, Ganesh, le dieu à tête d'éléphanteau, possède 4 bras. Et les mélopées de l'instrument de son prof de guitare, Ravi Shankar. George Harrison se rend d'ailleurs à Bombay pour y suivre les enseignements du maître.
When George Harrison came to me, I didn't know what to think.
Sa guitare lui en saura éternellement gré. Devenu inconditionnel de l'enseignement de la sagesse orientale, il convainc les 3 autres membres des Beatles des bienfaits de cette pratique en vogue. Au point qu'en été 1967, ils partent en train avec un certain Mick Jagger dans le nord du Pays de Galles, assister à une conférence donnée par un petit bonhomme au sourire ravageur, un certain Maharishi Mahesh Yogi, excusez une fois de plus l'accent, sa fleur bon, le patchouli et le thé au beurre de yak, tout ça.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.
Mais alors que les chakras des Fab Four sont occupés à s'ouvrir à tout va, Brian Epstein, leur manager et mentor, est retrouvé mort dans son lit londonien. Nous sommes le 27 août 1967.
Blackbird, fly.
Patatras, sans Epstein en boussole, en ciment, en fondation, le groupe vacille. John Lennon l'affirme. Après la mort de Brian, on s'est écroulé. Nous avons splitté à ce moment. C'est le moment où les Beatles se sont désintégrés.
The Beatles broke up.
You were only waiting for this moment to arrive.
Mais et l'album blanc dans tout ça, me direz-vous, a raison, j'y viens. En pleine crise, les 4 garçons, qui craignent ne plus être dans le vent très longtemps, s'envolent, avec femme et enfants, en direction de la ville de Rishikesh et l'ashram du yogi, qui continue de leur faire forte impression. La déception est grande lorsqu'ils constatent que le sage cède à des pulsions très terrestres, au final lorgnant sur les femmes du groupe et se souciant plus des retombées financières de l'opération que des réponses existentielles que le groupe est venu chercher. Le trip n'aura pas réussi à ressouder les Beatles. Au contraire, alors que George Harrison reste en Inde, Ringo lui court après les sirènes du 7e art avec un succès, on va dire, mitigé.
Oh, but Emmanuel is good boy.
Quant à John, il se frotte à des expérimentations artistiques en tout genre avec sa nouvelle amoureuse, Yoko Ono, rencontrée fin 1966 et qui ne le quitte plus. Pour son plus grand plaisir, si on en juge par ceci. Mais alors que tout semble partir en cacahuète, il y a un miracle. Sans doute sans le savoir, les Beatles ont ramené des perles dans leur bagage indien. Des ébauches de chansons, l'embryon d'un disque superlatif. Quand, à reculons et séparément, ils entrent en studio pour enregistrer ce qui deviendra l'album blanc, ils ont de l'or dans les mains. Enregistré au forceps, accouché dans la douleur et les tensions, entre mai et juin 1968, principalement dans les studios d'Abbey Road, ce disque est d'une richesse folle, sorte de catalogue de la maestria Beatles et testament avant l'heure. Entre une tendresse faite chanson,
who knows how long I've loved you.
Les hurlements rock de ce Helter Skelter beuglé comme jamais qui rappelle un certain twist and shout du même tonneau. Sans oublier les multiples révolutions. Le très dérangeant mais jouissif Happiness is a Warm Gun, un bonheur à reprendre sans modération.
Yeah.
She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane.
Le verre est dans le fruit, les tensions à leur comble, ils n'en sortiront plus. Les gentils Beatles sont une face sombre, ils la montrent sur ce disque sans pareil qui part dans tous les sens mais rappelle l'essentiel, l'incroyable talent de leurs auteurs. Il y aura d'autres albums après celui-ci, le trompeur Get Back et l'ultime Abbey Road, mais tout est déjà dit alors que l'album blanc se clôt sur un trait Walt Disneyien, oui j'ose le terme, Good Night. On avait dit génial, on n'avait pas menti.
On l'écouterait bien jusqu'au bout, mais on a des choses à faire. Ici, deux vinyles, quatre faces, 30 morceaux. Nous ne serons pas trop de trois pour éplucher tout ça et pour en parler avec moi ce matin. Il y a dans le coin gauche... Tiens, comment on se retrouve. Bonjour Philippe Manche.
Bonjour Cynthia, bonjour à tous.
Journaliste culture, ascendant punk rock, le White Album des Beatles, ça vous parle bien évidemment. Et dans le coin droit, un de nos maîtres de musique maison. Bonjour Bernard Tavolin.
Bonjour.
Journaliste chroniqueur, fondateur de notre radio Frangine Jam, conseiller en programmation musicale à la RTBF, etc., etc. Bref, voilà, les CV sont posés, messieurs, bienvenue. Et pour commencer, j'avais envie de vous la faire un petit peu à l'envers pour changer. Selon vous, s'il fallait attribuer un défaut à cet album blanc des Beatles, ce serait lequel?
C'est un album qui est pas un album, c'est foutraque. Il y a tout et n'importe quoi dedans. Donc c'est plutôt un mélange un peu dingue de plein d'influences, de plein de délires, et surtout on y sent les individualités qui se démarquent très très fort. Oui.
Mm-hmm. Philippe.
Vous m'avez demandé en un mot, je dirais qu'il est inégal pour les raisons qu'a très bien argumenté Bernard.
Et ben on va revenir sur cette inégalité, ce côté vraiment disparate, mosaïque de cet album qui est lié à tout ce côté privé qu'on vient d'entendre dans la capsule de Jean-Marc Panis. Mais cet album blanc, on va peut-être le replacer dans la chronologie. Il sort 18 mois après le raz-de-marée qui a été Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Les Beatles sont au sommet du sommet, ils sont même carrément au-dessus du sommet. C'est quoi l'enjeu pour eux à ce moment-là?
Je pense que leur premier enjeu, c'était de se retrouver entre eux. C'est ce qu'expliquait très bien Jean-Marc, qui a bien fait ses devoirs une fois de plus. Et c'est pour ça qu'ils partent en Inde, pour pratiquer la méditation, pour essayer d'aspirer une paix intérieure. Et puis, très vite, ils composent là-bas. Il y a beaucoup de guitares, beaucoup de morceaux qui sont d'ailleurs composés à la guitare acoustique, parce qu'ils ont envie de revenir à ce qui a fait leur essence rock'n'roll, en tout cas au début des années 60. Et puis, c'était un peu essayer de se retrouver, de se réinventer, ce qu'ils ont fait d'une manière généralement heureuse et parfois plus maladroite. Pour, si je ne peux citer que quand même un de leurs morceaux le plus pénible, peut-être le Obladi Oblada, qui est un grand tube dans tous les orchestres Oberbayern de Bavière.
Obladi Oblada, qui apparemment a été désigné par un sondage très sérieux de la BBC en 2004, pire chanson de l'histoire du rock.
Ok. J'ai deux, trois autres exemples plus parlants que ça. Mais
par exemple.
Non.
Je voudrais blesser personne. C'est ça, c'était vraiment leur enjeu, c'était de se réinventer. Vous l'avez dit, ils sont totalement en perdition. Il y a le décès de leur manager.
Ouais.
Et ils ne peuvent pas aller plus haut qu'ils ne sont déjà.
Mmh. Alors, Lennon dit aussi à ce moment-là qu'il veut s'éloigner du psychédélisme de cet album de Sgt Pepper. Est-ce que c'est par peur de voir les Beatles catégorisés là-dedans?
Ça, c'est difficile à dire, évidemment, mais par contre, c'est extrêmement courageux, parce que c'est le moment du psychédélisme, tout le monde se met à faire ça. Eux, ils ont fait l'album définitif, on peut dire, avec Sgt Pepper sur le genre. Mm-hmm. Et donc ils arrivent à quelque chose de moins impressionnant, de moins écrasant peut-être, d'une œuvre moins majeure en tout cas dans son expression que Sgt Pepper's, et ils reviennent plutôt à l'humain en fait. Mm-hmm. Et je trouve que c'est très très brillant, je sais pas si ça avait été pensé comme ça, mais c'est ça qui fait aussi le charme absolument étonnant de cet album, c'est que il y a un côté vraiment humain, très 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 touchant d'ailleurs. Il y a des chansons absolument sublimes comme Julia, ou donc dédiée à la mère de John Lennon, mm-hmm. Ou Dear Prudence, qui est dédié à la sœur de Mia Farrow, qui était dans cette retraite en Inde, où apparemment elle ne sortait pas de sa hutte.
De sa hutte,
et donc, mais c'est une chanson absolument magnifique. Donc il y a vraiment quelque chose de très très humain, mais de moins écrasant en fait. Mm-hmm. De plus proche, on se sent plus proche des musiciens. On sent les aspérités, les défauts, les doutes, tout ça transparaît très très fort, je trouve, dans les chansons.
Et cette vulnérabilité, elle est perçue comment par le public à ce moment-là qui les divinise en fait, hein. Moi perso, j'y étais pas.
Nous non plus.
C'est pas ce que j'impliquais.
En tout cas, c'est la troisième meilleure vente des Beatles. Je crois qu'ils ont écoulé 20 millions d'albums. Donc c'est vraiment leur plus grosse vente avec, je pense, Sgt Pepper.
Mais cela dit, le succès qu'ils ont eu, je pense qu'ils auraient sorti absolument n'importe quoi. Les gens se seraient rués dessus tout de suite, quoi. D'autant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc on a acheté le disque sans l'écouter, sans lire les reviews.
Et on avait des belles surprises, j'imagine. Oui, j'imagine que de quelques morceaux.
The Revolution Number 9, oui, ça c'est. Ouais.
Alors, c'est vrai que le groupe veut revenir aux fondamentaux du rock, veut revenir à quelque chose de plus simple, de plus dépouillé. Paradoxalement, ils veulent s'éloigner du psyché, mais l'essentiel de l'album, il va quand même trouver sa matière dans ce stage de méditation transcendantale qu'ils vont faire en Inde tous ensemble. Alors on sait qu'ils ont juste des guitares acoustiques à disposition, qu'ils écrivent là sur place. À part dans la guitare de George Harrison, qui est le premier à se lancer sur cette voie-là, on la sent où, l'influence de l'Inde dans cet album ?
Moi, je la sens pas. En fait, il n'y a pas d'influence stylistique musicale de l'Inde. Ouais. Mais par contre, effectivement, c'est ce stage de méditation qui a eu des effets divers. Je crois que Lennon, il s'est barré, il en avait un petit peu marre. Mm-hmm. Mais je pense que c'est ça qui les a marqués. Mais sinon, l'Inde, je pense qu'ils n'écoutaient pas de musique indienne là-bas. Non, ils étaient en retraite.
Il n'y a pas de morceaux avec Ravi Shankar, il n'y a pas de
clochette. Rien de tout ça.
Clochette tibétaine, c'est plus, voilà, l'aspiration de la paix intérieure et d'arriver. De revenir au pays avec une certaine zénitude. Et c'est vrai, comme disait Bernard à juste titre, c'est un retour à la simplicité. Vraiment, il y a des balades absolument magnifiques.
Il y a aussi des morceaux beaucoup plus puissants. Hein.
Il y a des balades désarmantes. Et puis alors, il y a Helter Skelter qui est... Ah ouais, merci. Fantastique.
Qui prédit quasiment le hard rock, en fait.
On considère même que c'est
le premier,
pas hard rock, plutôt heavy metal. Mm-hmm. Quoi. Cette manière de hurler comme ça, typique du heavy metal. Le hard rock, ça existait déjà à l'époque, c'était du blues un petit peu plus violent, mais ici c'est vraiment presque du heavy metal. Oui. Et ce qui est le plus étonnant dans l'histoire, c'est que ce n'est pas Lennon qui était considéré comme le rocker du groupe, mais c'est McCartney qui a composé cette chanson. Et apparemment, il était mouché par les Who, qui était le groupe le plus violent de l'époque, et il avait envie de leur montrer ce que c'était une chanson vraiment violente. Oui.
Et c'était juste pour l'exercice de style, ou ils auraient pu persévérer sur cette voie, enfin, on ne le saura sans doute jamais.
Mais c'est un peu Paul McCartney, si on suit un petit peu sa carrière depuis 60 ans maintenant, il aime bien explorer plein de genres musicaux. Mmh. Il finira par faire un album de techno, ça je suis absolument certain. Ou peut-être d'amapiano même. Non, mais c'est vrai qu'il a tout fait, Paul McCartney. Et je pense que c'est vraiment ce qui est une des caractéristiques de son talent, c'est de pouvoir justement aller dans tous les genres. Mmh. Et ici, il est allé dans un genre absolument extrême pour l'époque. Encore aujourd'hui, ce morceau est presque indiffusable en radio dans son intégralité, parce que c'est tellement violent.
Mmh. Et Philippe ?
Oui, mais je pense aussi... Il a été repris par une foule de groupes et d'artistes, et c'est assez intéressant parce que quand on fait quelques recherches aussi, je pense qu'il n'y a pas une seule chanson du White Album qui n'a pas été reprise.
Oui, ça c'est certain, c'est sans doute un des albums qui a peut-être généré le plus de covers.
Et puis ce morceau, oui, effectivement, la petite histoire, paraît-il que Charles Manson
aurait entendu des choses.
Un petit message, mais en tout cas musicalement, c'est vrai que, et pour rebondir aussi à ce que disait Bernard, c'est vrai que McCartney, c'est un fan de musique ultime, dont on fait qu'effectivement, il fait tout. Puis je me mets à la place des gens, ce qu'on disait tout à l'heure, qui ont acheté le White Album et qui l'ont mis la première fois sur leur platine en aspirant peut-être à retrouver des effluves psychédélique ou de thé à la menthe ou au jasmin, comme disait Jean-Marc tout à l'heure, se prendre quand même une énorme gifle parce que le morceau est monstrueux.
Bah, si on veut résumer l'album, on écoute Obladi Oblada et on enchaîne avec ça.
Voilà.
Donc, c'est assez étonnant. Oui.
Là, on a l'esprit. Mais justement, là, on va peut-être se pencher un instant sur les textes, parce que beaucoup de ces textes ont aussi été ébauchés pendant cette retraite, dont on a dit, voilà, on ne sent pas le lieu géographique, finalement, cette retraite, elle aurait pu avoir lieu n'importe où. L'important, c'était qu'ils se retrouvent eux ensemble. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même un peu de tout. Il y a des perles engagées comme Blackbird. Il y a While My Guitar Gently Weeps, mais il y a aussi des textes beaucoup plus anecdotiques, comme Dear Prudence, qu'on vient de mentionner sur Lia Farrow qui sort pas de sa hutte pendant 3 jours. Il y a Martha, My Dear, qui parle du chien de Paul McCartney. Il y a Savoy Truffle qui parle de l'obsession de Clapton pour le chocolat. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Et pourtant, à l'écoute, ça marche et on est ému. Donc finalement, les Beatles, c'est ça, c'est une capacité à transcender l'anecdotique presque.
Oui, exactement. C'est une très très belle définition.
Joliment dit.
Ok. Vous allez me laisser là-dessus.
Oui, je ne peux pas. On peut rien ajouter à ça. Transcender l'anecdotique. Ouais, c'est pas
je vais la noter sur un t-shirt, celle-là aussi. Sur le plan personnel, par contre, on sait que c'est plus compliqué. Hein. On l'a dit, il y a beaucoup de rivalité à ce moment-là. Il y a beaucoup d'amertume. Il y a la rupture d'avril 1970 qui est toute proche, hein, vu que l'album, il sort en novembre. Certains font des luttes d'ego. Il y en a d'autres qui se sentent mis de côté. Il y a Ringo qui va partir.
Qui part, oui, effectivement.
Pendant 2 semaines.
Et Yoko débarque.
Voilà. Ça va ajouter au mix. Et puis, il y a la mort prématurée de Brian Epstein. Finalement, c'était beaucoup plus qu'un manager. Pour eux, c'est lui qui les fait et c'est sa mort qui va les défaire.
Ah, il était fondamental dans l'histoire du groupe. C'était un peu le ciment de ce groupe. Et là, justement, ça se délite complètement. Ils partent chacun dans des expérimentations personnelles. Effectivement, il y a Ringo qui se barre en Sardaigne parce qu'il n'en peut plus. Mm-hmm. Il a l'impression d'être mis de côté, de ne pas être considéré. Il y a des enregistrements de cet album qui ont été faits sans lui. C'est Paul McCartney qui prend la batterie, qui joue plutôt pas mal. Enfin, il y a cette fameuse anecdote assez humiliante de Lennon, à qui on demande, un journaliste lui demande si Ringo est le meilleur batteur du monde. Il dit non, c'est même pas le meilleur batteur des Beatles.
Oh.
Ah oui, il était pas toujours très sympa.
Ouais, effectivement. Et puis, sur le plan financier, c'est aussi la grosse tension parce qu'ils viennent de créer leur
propre label, effectivement.
Leur propre label, Apple et Apple Corp, qui va être une débâcle sans nom. Et le disque va néanmoins sortir dessus. Hein. Est-ce qu'ils y croient encore à cette entreprise à ce moment-là? On sait que l'argent va être un gros souci. Ça va être...
Comme on disait tout à l'heure, on aurait bien aimé être là, mais on n'y était pas. Oui, j'imagine qu'ils y croyaient encore, mais en même temps, c'était tellement un flux d'émotions, de pressions diverses, d'enjeux. Effectivement, les sessions se passent très mal, ils enregistrent chacun dans leur coin. C'est peut-être ça aussi qui fait le charme et la faiblesse toute relative du White Album, c'est qu'ils sont un peu chacun dans leur coin. Ça révèle en tout cas qu'ils sont tous les quatre... des compositeurs hors pair. Ringo a même sa propre chanson, mais ensemble, c'est vrai que c'était beaucoup plus dilué.
Oui, et puis, ce qui est marrant, c'est par exemple Birthday, qui est une chanson qui est très très rock, que je trouve assez étonnante aussi. C'est assez violent pour l'époque. Il l'a composée pour l'anniversaire de Linda Eastman, pardon, donc sa compagne, et il a écrit, composé et enregistrer cette chanson en une journée. Quoi. Mm-hmm. Donc c'est absolument hallucinant quand même.
Ouais.
Et il y a ça, puis il y a John Lennon qui s'essaye au blues. Moi je trouve pas avec beaucoup de réussite, mais bon voilà. Le blues est aussi une musique extrêmement importante dans les années 60.
Mm-hmm. On a un petit morceau justement de ce Birthday.
C'est une chanson que John Lennon détestait.
Apparemment, c'est quand même un des seuls morceaux sur lequel ils ont réussi à collaborer du début à la fin. Effectivement, quand on met encore ça à la suite d'Helter Skelter, de Bladdy Oblada et de la suite...
C'est plus gentil, mais c'est quand même assez c'est musclé, quoi. Vraiment.
C'est musclé, mais c'est encore différent, finalement.
C'est très un cliché rock'n'roll, mais assez musclé.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand on est... Bernard aussi, réécouté l'album avant de vous retrouver, mm-hmm. et je me suis même resurpris à découvrir des choses que j'avais jamais entendues. Par exemple, il y a une intro flamenco avant Bungalow Bill qui m'avait totalement échappé. Donc c'est vraiment, enfin voilà, ils ont tout essayé.
Ils faisaient déjà ça avant. Il y a du Sirtaki sur l'album Rubber Soul.
Oui.
Ils ont jamais eu peur de ce genre de choses. Oui.
D'expérimenter. Et en matière d'expérimentation, on va quand même dire un mot sur le graphisme de cet album. Voilà, cette cover toute blanche embossée de l'artiste Richard Hamilton. Cover qui devait pas être blanche en en fait, apparemment, au départ. Elle devait porter une trace de café et une trace de pomme verte. Et John Lennon a dit non, c'est un peu trop, m'as-tu vu. Et donc, ils sont partis sur cet album blanc. Alors, il y a eu le Black Album de Metallica des années plus tard, en 91. Est-ce que l'universalité du design aussi de l'objet fait qu'il est resté en mémoire, alors que c'est pas forcément, finalement, leur...
C'est d'une modernité incroyable. Voilà. Cet album c'est pourrait culotté. Sortir maintenant, oui.
Ouais.
Enfin, je veux dire, le graphisme est totalement dans l'air du temps.
Oui, effectivement.
Ah oui, pas mieux. Non, c'est vrai que c'est avant-gardiste. Et il faut être fameusement culotté, un groupe qui a une telle popularité, arriver avec juste le nom de...
Si je peux me permettre, il y a eu Prince qui a fait aussi le Black Album un petit peu avant Metallica. Ça n'a rien à voir. Et puis, il y a eu le Grey Album.
Donc Jay-Z.
Jay-Z et Danger Mouse. Oui, ils ont fait des samples de cet album avec la voix de Jay-Z. Oui, c'est assez étonnant.
Et pour citer un truc un peu plus confidentiel, il y a aussi l'album de Sigur Rós qui est tout blanc et qui n'a pas de nom. Effectivement.
Et ben voilà.
Entre deux jolies parenthèses. Allez, pour le plaisir et pour terminer, votre chanson préférée sur cet album. Blanc.
Moi, je pensais Dear Prudence.
Dear Prudence.
Je trouve que c'est d'un charme absolu. Et puis, alors, Helter Skelter pour d'autres raisons, mais Dear Prudence, c'est vraiment incroyable.
Philippe. Moi, je dirais Blackbird parce que j'ai emmené mon fils cadet voir Paul McCartney il y a une quinzaine d'années. Et quand Paul McCartney a joué Blackbird, j'ai vu dans les yeux de mon gamin. Des étoiles, et je me suis dit, c'est tout simplement ça le génie des Beatles. Puis en deux minutes, tout est dit.
Ouais, tout est dit, effectivement.
La première,
9h-10h,
c'est génial.